français. Je vous présente Madame Jeannette Gallon, et qui est une dame à laquelle on tient beaucoup ici, parce que c'est une femme arménienne, parce que c'est une mamie, parce que c'est une grand-mère, mais surtout parce que sans elle, cette maison n'existerait pas. Si on a le temps, elle vous racontera sa vie MCA. Elle a été gabouitrachoui toute sa vie, elle l'est toujours, et elle a été conseillère municipale de la ville d'Alfortville pendant
24
ans. Alors je vais vous demander de vous lever et de lui dire « Parev digin Jeannette ». Alors, ben Jeannette, ne chilez pas, bidi. Hayren et Polor gaskenan.
Hayren, Hayren, vous êtes chenille française, vous êtes parisi.
Parce qu'en plus, elle sait les deux langues parfaitement, hein? Alors, où elle s'exprime en français, ou s'exprime en arménien?
Hayren, parler gambor chengernar.
Français et non que n'entendres.
Aïe.
Bon, donc.
Et toi, ça vous gêne pas?
Non, mais nous, ça nous gêne pas. C'est toi,
ça gêne. Les enfants, non?
Non. Bon, alors, Jeannette, si on t'a demandé de venir, c'est parce qu'on va étudier cette année le génocide. Et on s'est dit que comme, s'il te plaît, comme tu habitais en face, que tu étais notre mamie, que tu as vécu le génocide, eh bien que tu nous racontes comment ça s'est passé. Bien. Et puis après, les enfants te poseront des questions, s'ils n'ont pas bien compris.
Attends. Eh bien, en 1914, puisque la guerre a commencé, et mon papa, il est parti à la guerre. C'était mobilisé par les Turcs. Et ils nous ont donné une ordre de quitter le pays. À 5h du soir, il fallait vider complètement le village. J'habitais à Çengelier, pas loin de Yalova, à Istanbul, enfin, en Turquie. Et ma maman, elle avait 4 enfants. L'aîné, c'était moi. J'avais 10 ans. Ma mère était née au sein. Il avait 8 mois. L'autre qu'il avait 3 ans, l'autre qu'il avait je ne sais pas combien. Et on a marché, nous avons marché sans arrêt, sans manger, sans boire, rien, en nous tapant dessus avec des martinets. On était au milieu comme du troupeau. Il y avait, à chaque côté, il y avait des chevaux avec les hommes dessus, avec des martinets à la main. Si on n'arrivait pas à temps, on marchait pas vite, ils nous tapaient dessus. Alors on était obligé de marcher. Mais quand on arrivait le soir dans un pays,
dans un village,
n'importe où, dans un village, n'importe où, ils nous laissaient dormir un peu sur les cailloux, sur les sables, bien sur l'herbe. On se reposait là-dessus. Le lendemain, on commençait toujours la même chose. Alors donc, nous avons été jusqu'au Bagdad, Bassarad, à pied, à marcher et tout. Et ma mère, sur la route, avant d'arriver dans ce pays, le petit bébé là, qu'il avait vu moi, et il n'avait pas de manger, il était tellement maigre. Ma mère lui donnait au sein, ma maman, mais il avait du sang qui venait, c'était plus du lait. Et on était obligé de l'abandonner, on l'a mis dans un coin d'une rue, on a couché par terre, et puis on est parti. Et puis, mon deuxième sœur, au bout de 3-4 jours, nous avons marché, elle ne pouvait plus marcher non plus. Et nous avons abandonné encore celui-là. Après mon frère, quelques jours après, nous avons abandonné mon frère. Abandonné dans la rue, on disait, vous ne voulez pas un petit enfant, vous donnerez un bout de pain, ça suffit. On leur donnait. Et puis après, c'était moi. Moi, c'était une chef de gare qui m'a pris. Ma maman, il a demandé qu'on me prenne, qu'il lui donne un bout de manger, un bout de pain, n'importe quoi, mais il faut qu'il le garde. Alors donc, je suis restée 4 ans chez eux. Mais j'étais très maltraitée, vous savez, j'étais pas bien. J'avais pas le droit de manger sur une table. Il y avait un banc, et je mettais un tabouret, et tout ce qui est resté dans leur assiette, ils mettaient dans la même. Ils étaient 4, le mari, la femme, la maman, la belle-sœur. Ils mettaient tout dans une assiette, tout ce qui restait dans l'assiette, c'était ça que je mangeais moi dans la cuisine. Et 4 ans s'en s'est passé, les 4 ans de la guerre est terminée, et il y avait une occupation là-bas. Ils sont arrivés les Américains, les Français, et les Italiennes et les Anglais, et ils ont fait une occupation du pays, du village. Et mon père, le Turc, quelques jours avant qu'il soit fini la guerre, et il est entré et puis il m'a dit, parce qu'ils m'ont changé mon nom, ils m'ont mis Dilbert, les Turcs. Il m'a dit, Dilbert, tu sais que la guerre est terminée, est-ce que tu vas partir? Parce que sûrement qu'ils vont venir te chercher. J'ai dit non, moi j'avais peur qu'on me fasse quelque chose. Je disais non, je ne veux pas partir, moi je suis turque, que je disais. Et puis, quelques jours après, j'entends monter des pas de... Vous savez, les soldats, ils ont des clous en dessous, les chaussures. C'était des soldats américains. Mais c'est des Arméniens qui sont engagés dans l'armée américaine. Donc, ils sont venus là-bas pour ramasser dans toutes les maisons qu'il y avait des enfants comme moi, qui ramassaient, qui amenaient Adana Orfolina. Adana, c'est en Turquie. Il y avait un orphelinat. Tous les enfants qui ramassaient, ils apportaient comme des troupeaux, vous savez, les garçons, les filles, tout mélangé à n'importe quel âge. Ils m'étaient là en attendant. Alors, on était là. Et les soldats qui sont arrivés, étaient trois. Soldats arméniennes, américaines. Ils sont venus frapper la porte. C'est moi que j'ai ouvert la porte. Et j'avais ma tête qui était attachée avec une foulard blanc. Et ils frappent la porte. J'ai entendu les pas. Parce qu'on habitait dans un étage où il y avait tous les escaliers, c'était en marbre. Et quand ils montent les soldats, vous savez, avec les clous, on sentait que ça. Il y avait des gens qui montaient. Alors, ils ont sonné la porte, j'ai ouvert la porte comme ça, je regarde, elle me dit, tu es arménienne? Hayestu? Ayo? J'ai pas dit ayo, je fais ça. Il m'a pris par la main, il a tiré dehors, il avait du ruban dans sa poche, du ruban blanc. Alors, il m'a pris mes cheveux, il a fait ça, il a arraché ce que j'avais,
sur la tête,
le cache-col. Alors, il m'a enlevé, il a attaché un ruban comme ça, et puis ils m'ont descendu en bas. Et comme j'avais mon père turc qui était chef de gare, il était au bureau en bas. Il a dit, où c'est que vous amenez cet enfant? Il n'a rien, vous ne prenez pas des robes. Ils ont dit, on n'a besoin de rien. On amène. Ils m'ont amené à Orfalina, à Dana. Au bout d'un an, mais là on ne mangeait pas non plus, hein. Les dimanches, on avait une orange avec un morceau de pain. Par terre, ils nous mettaient, parce que tous ces enfants, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de quoi faire la cuisine, il n'y avait rien. Ils avaient autre chose à faire que qu'ils soient les Américaines ou les Français ou les... tout. Il fallait manger ce qu'on... Alors des pommes turques cuites à l'eau avec du pain. Mais on était contents quand même parce qu'on était libres, on était... Moi je ne comprenais plus arménienne, je ne savais plus, je ne parlais que turc. Et puis, ça a été comme ça. C'était une vie. Et j'avais une jeune fille plus grande que moi. Elle était très gentille. Elle était de mon pays. On s'est rencontrés comme ça dans cette école. Et puis, elle m'a dit, quel pays tu es? J'ai dit, mais Tchenguiler. Elle m'a dit, mais moi aussi, je suis Tchenguiler. Mais tu vas être ma fille maintenant. Elle était beaucoup plus grande que moi. Mais elle était dans les Arabes, chez les Arabes. Elle avait des trous ici, il y avait des boucles d'oreilles là, enfin,
Oui.
qu'elle avait. Et puis, il avait aussi des tatoués, aussi bien le front. Les mains, ici, elle était tatouée complètement. Alors, donc c'est elle qu'elle s'occupait de moi, elle me peignait, elle me... parce que j'étais quand même chétif, vous savez, malgré que j'avais 12 ans, 13 ans, mais j'étais petite enfant comme ça, je suis restée tout petite. Eh bien, elle, il a trouvé ses parents. Et comment? Son père était soldat aussi, et sa mère, elle était bonne à Istanbul. Et quand son père il est resté vivant, il est revenu de la guerre, il a trouvé sa femme. Mais pas d'enfants. Les enfants, il avait laissé sa belle-mère à Tchenguiler. Et avec sa belle-mère, les enfants, ils ont été massacrés. Alors donc, cette fille, alors, ses parents, ils ont écrit dans tous les orphelinats. Comme quoi, s'il y avait une fille ou un garçon, comme ça et comme ça, parce qu'ils étaient quatre aussi. Cette fille, ses frères, ils ont marqué. Alors, ils ont trouvé là. Elle, il a dit, c'est moi. Comme elle est à la table, enfin, quand on prenait le morceau de pain ou bien le pomme de terre, on était debout, comprenez, on faisait d'abord notre prière et puis ensuite on prenait ça pour manger. Alors elle dit, c'est moi, parce qu'ils nous sont nos familles et son petit nous. Ils ont dit, vous êtes né Chengler, voilà. Et il a dit, c'est moi. Maintenant, il est prêt à partir, mais moi je pleure. Moi je me dis, mais moi aussi je veux ma mère, je veux mon père, je veux mes frères, je veux. Il m'a dit, mais je ne peux pas t'amener, je n'ai pas de sous, rien, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis il était trouvé le directeur, il a dit, écoutez, c'est ma cousine, je l'amène avec moi. Je pleurais tellement que je couchais par terre, je pleurais sans arrêt. Alors il a eu pitié, et puis il a dit, je l'amène avec moi. Le directeur, il a donné l'autorisation de m'en aller avec elle. Mais on est arrivé à la gare, on n'avait pas d'argent pour reprendre le train. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais moi, je me rappelle que mon père était chef de gare. Alors, ils nous ont expliqué, puisque je ne savais plus parler arménien, je ne parlais que turc. J'ai dit, j'ai un père qui est osmanien, il est chef de gare là-bas, et maintenant je me trouve ici, je voudrais prendre le train, je n'ai pas d'argent. À ce moment-là, il y avait une machine, tu sais, qu'on...
Télégraphe
qu'on tapait comme ça. Ils ont fait à mon père, à turc. Alors, lui, il a dit, ben oui, mais... Il faut le mettre dans le train. Il faut leur donner à manger. Absolument. Alors, donc, ils nous ont apporté du chimène, comme sur le pastèrement, vous savez, le chimène. Gros morceau, gros pain, du pain, et puis des pruneaux secs. Et il n'y avait pas de banane là-bas, des idures. Ils nous ont mis dans un train des marchandises, c'est-à-dire... Les marchandises, ils ont mis sur le côté. Au milieu, ils ont fait un trou. Ils nous ont mis dedans parce qu'on n'avait pas de billets. On est arrivé jusqu'au Konya. À Konya, le train n'y est parti pas plus loin. C'était dit comme ça. Ils nous ont dit, il faut vous descendre à Konya. Il n'y a rien à faire. Et maintenant, de Konya, il faut partir encore. Il faut partir jusqu'au Istanbul. Et on n'a pas d'argent. Alors, il a pris une rue. Et moi, j'ai pris une autre rue. Alors, on m'a dit... On avait une assiette à la main, et puis on disait, donne-nous un franc, donne-nous. On pleurait comme ça, et puis on demandait. Ils nous ont donné, toutes. Il y avait un monsieur grand, fort, qui est arrivé, pas chez moi, la jeune fille qu'il a trouvée, la seule qui était avec moi, mais était dans une autre rue. Il a trouvé, il a dit, mais qu'est-ce que vous êtes? Elle dit, je suis arménienne. Elle dit, ben viens avec moi. Elle dit, non. J'attends de ramasser l'argent si je peux, demain aussi, pour que j'ai l'argent pour m'en aller, et puis j'ai ma cousine ici. Il dit, viens montrer ta cousine. Alors ils sont venus donc avec ce monsieur, ils m'ont trouvé, et puis là, ils m'ont trouvé, et ce monsieur nous a amené dans un camp, où il y avait des tentes à toile, enfin, tout le monde y couchait par terre, là, il y avait plein des Arméniens, ils nous ont donné à manger, et puis le lendemain, il nous a payé le voyage pour aller jusqu'à Istanbul. Nous sommes descendus à Istanbul. Maintenant, les parents de cette jeune fille et cette personne qui était avec moi, ils ne savaient pas que leur fille était vivante. Et dès qu'on a reçu la lettre, nous, on était prêts à partir. Et là-bas, ils ne demandaient pas mieux qu'on s'en aille. Parce que les enfants étaient une sur l'autre. Il n'y avait plus de place pour mettre les enfants. C'était tellement rempli des enfants, des garçons et des filles. Alors, donc, on est descendu à la gare, et en sortant, voyez, des fois, le bon Dieu, on dit, « Asfaz mezi, gdesna veren, iragana desa. » Adarchig, tout cela, « Maïre, tratsin mehet, asak tefteli gasnigur. »« Chikidir kachikuka, murchini, bnaf. » On sort de la gare, on voit cette fille, et puis, tout d'un coup, elle crie. On dirait, c'est ma mère. On dit, Maïr, c'est ma mère. Maman, c'est... Gnigetter, ça. Akabissé. Il a pas de vétanasse. Goulan. Et sa cousine, maman, cousine. Et sa cousine, maman. Et sa goulan. Mais j'ai arrêté, il reste nous d'arrêt. Quand il m'a dit, papa, il est lourd de vin. Papa, il a chadé à rire, gauche, gaga, à rire. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est Katsingan-Ketsin, ils ont été cherchés, il est arrivé, son papa, tous les voisins, ils sont venus, tous les Arméniens de quartier, ils sont tous venus le soir là. Ils nous ont lavé, Ils nous ont des bains. Ils nous ont enlevé des poules. Ils ont amené une machine pour coudre. Ils ont amené des tissus pour faire une robe, pour faire une culotte. On n'avait pas de culotte, on n'avait pas de chaussures, on n'avait rien du tout. Alors, ils nous ont habillés. Et puis, je suis restée 15 jours chez eux. Il a trouvé ses parents, mais pas ses frères et ses sœurs. Non. Mais elle, il a trouvé sa mère et son père. Et mon père était marié à moi. Mon papa était marié, était au pays. Au Tchenguilière, était parti. Et évidemment, ils m'ont gardé quand même 15 jours. Après, ils ont amené à l'église. Ils ont écrit au pays, au village, comme quoi que ta fille, votre fille elle vient d'arriver, qu'elle est ici. À l'église arménienne d'Istanbul, ils ont écrit à mon père. Mon père est arrivé mais 3 mois après. Et puis, ils m'ont placé. J'étais bonne chez une dame. L'église, ils ne pouvaient pas me garder. Ils ont mis sur le journal en disant qu'il y a une petite fille ici, si vous voulez garder comme une enfant. Ils sont venus me chercher, mais je faisais tout à la maison. Je faisais les commissions, je faisais tout. Et puis mon père est arrivé, il était remarié. Sa femme, elle ne voulait plus de moi. Et puis voilà, tout et tout. Après, par la suite, ben, mon père qui était marié, la femme, il avait aussi une fille. Elle, il avait amené avec elle. Et mon père, il a commencé, puisque tu ne veux pas ma fille, moi je ne veux pas ta fille non plus. Donc, elle se mariait avec un Français, puisqu'il était occupation. Il est venu ici, il m'a amené avec elle. Donc, c'est elle qui m'a amené avec elle en France. Et puis, à Aix-en-Provence, j'étais chez les sœurs, je demandais du travail. Ils m'ont mis dans une clinique Sainte-Anne, on appelle ça des cliniques Sainte-Anne. Et là, j'ai travaillé pendant 2 ans à la clinique Sainte-Anne, j'ai appris le français. Ils m'ont donné 5 chambres dans cette clinique. Et dans je me levais le matin, je lavais par terre, je faisais les lits, je faisais les toilettes des malades, j'ai peigné, je leur donnais les petits déjeuners. Et le docteur est arrivé, je faisais les visites avec eux, tout ça. Et puis, je suis restée 2 ans. 2 ans après, je suis revenue ici, je me suis mariée avec un Français. Donc, cette fille qui connaissait un Français, qu'il avait vu ma photo. Et puis il avait dit, cette jeune fille, si vous faites venir d'Aix-en-Provence ici, moi je me mariais avec. Je me suis mariée avec, j'ai eu une fille, au bout de 3 mois, ma fille elle avait 3 mois, mon mari il est mort d'une appendicite, au bout de 15 mois. Donc je suis restée encore avec une fille dans les bras. Et puis, il fallait que je travaille, je suis allée à l'usine travailler. Ma fille, je mettais à la crèche. Le soir, j'arrivais, je prenais cet enfant, je le soignais. 4 ans après, je me suis remariée et puis me voilà ici. Et mon mari partait avec une de mes ouvrières, je faisais la confection ici. Et voilà maintenant, ça fait 42 ans que je suis toute seule. J'habite en face. Voilà ma vie.
Elle est superbe.
Je m'accorde aussi.
C'est parfait, Jeannette.
C'est vrai.
Écoutez, est-ce qu'elle n'a pas parlé de manière remarquable? Jeannette, il y a une chose que tu n'as pas dit, c'est ton âge. Quel âge tu as maintenant?
87 ans, je vais avoir mois de mars 88 ans.
Bah écoutez, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'abord je suis très émue, parce qu'il y a longtemps qu'on
moi
y pense.
Moi aussi j'arrivais pas, parce que comme je suis allée chez le dentiste avant-hier, il m'a mis des dents, je disais à Smith que je ne peux pas venir parce que je n'arrive pas à parler comme je veux. Et ça me gêne quand même un petit peu.
Non, ce que tu as raconté était très beau, tu l'as très bien raconté.
Vous avez compris, ça va, ça a été...
Alors, est-ce que... moi, je pense que vous avez des questions à poser. Alors, je vais vous demander de parler assez fort et assez clairement pour que Jeannette entende bien. D'accord?
J'ai tous les défauts.
Non, c'est une histoire remarquable et...
Ça a été quand même, elle n'a pas pleuré à ce moment-là.
C'était très bien. Écoute, c'est eux qui décident et s'ils t'ont applaudi, c'est qu'ils sont...
Alors, comment ça a
été ? Très bien.
Ça a été ?
Qui est-ce qui a une question à poser ?
Comme ça, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait les trucs. Et jusqu'à aujourd'hui encore, hier soir, mon petit-fils...
Ah oui, si ?
J'ai un petit-fils qui habite en Suisse, parce que ma fille, que j'avais gardée, elle s'est mariée avec un Suisse. Elle vit à Zurich. Il a un fils journaliste. Il a 38 ans. quand la guerre était, il y a 2 ans de ça, il y a une guerre,
la guerre du Golfe.
Entre les Turcs et les Kurdes.
Ah, oui.
Vous vous rappelez?
Vous savez, sur la frontière.
Il n'y a pas plus de 2 ans.
Oui.
Et mon petit-fils, comme était journaliste, il est parti là-bas. Et là-bas, il y a un Turc, il y avait une petite fille de...
Kurde,
7-8 ans. Alors le Turc, un homme fort, il prend une bout de bois, il tape sur la petite. Et mon petit-fils, il a vu ça, il est journaliste, il a vu ça. Et lui, il sait comment je sais faire étant petite. Alors il trouve le Turc là, qu'il a donné. Il tape sur la figure une gifle, mais fort. Et il y avait une autre Turque à côté, lui il tombe, une pierre qui tombe sur lui, il casse le bras, l'autre. Et mon petit-fils, ils ont mis en prison, les Turcs, 3 jours. Mais comme c'est un Suisse, c'est un pays libre, et puis qui travaille à un journal américain et un journal suisse, ils ont libéré au bout de 3 jours. Donc il est entré ici, chez lui, à la maison en Suisse. Et maintenant, hier soir, il a reçu une lettre, ils sont en train d'attaquer, ils ont un procès. 10 ans de prison, 2 à 10 ans de prison, les Turcs. Ben, jusqu'à présent, non.
Ça n'a pas changé.
Il n'a pas changé hier. Bien. Alors hier soir, mon petit-fils me téléphone, me dit, maman, il dit, tu vois, il dit, je suis comme toi, il dit, voilà, c'est les Turcs qui sont là et ils ne me lâchent pas.
Est-ce que certains ont des questions à poser? Je crois que Hovik a une question à poser.
Dans quel village vos parents vont être obligés de laisser?
Alors, je n'ai pas entendu, ma chérie.
Dans quel village, où est-ce que tes parents t'ont laissé?
Ah ben,
à Ksorjamana.
Ah ben, moi, je sais les miennes. Mes frères, je ne sais pas.
Toi.
Mais moi, Osmaniye, en Turquie. Osmaniye.
C'est au sud de la frontière syrienne. Ben. Une autre question?
Le qui dit les gosses.
Si, mais là ils sont un petit peu impressionnés.
Ben, vous êtes heureuse ici en France. Soyez heureuse, les enfants. Parce que.
Avec quel papier tu es venue en France?
Eh bien, je suis devenue française.
Non, quand tu es venue de Turquie en France, avec quel papier on t'a donné?
Avec le passeport d'accueil. Enfin,
ah, tu étais sur le passeport de ta soeur.
Ben, comme j'étais. Plus jeune que j'avais pas le droit de venir. Alors il l'a pris comme si j'étais sa belle-sœur, tu comprends?
Ah,
alors il m'a mis sur son passeport. Et ce passeport, je ne l'ai pas.
Ah bon?
Et bien, son mari il est mort, elle il est morte.
Oui. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Kayane.
À quel âge es-tu arrivée en France?
Tu avais quel âge quand tu es arrivée en France?
Est-ce que je sais?
C'était quelle année, tu te souviens?
En 1923.
23.
En France, je suis venue en 1923, mois de septembre.
Regardez, ça fait 23, ça fait 70 ans avant. Donc 70 ans, 87 moins 70, ça fait 17 ans.
Mais
elle avait 17 ans quand elle est arrivée.
Combien de temps êtes-vous restée dans l'orphelinat?
Dans l'orphelinat, combien de temps tu es restée?
Un an.
Mais il appartenait à qui, l'orphelinat?
Ben, je ne sais pas, c'était les Américains, les Français, ils venaient, tout le monde venait là. Alors ils ramassaient tous les enfants, ils les amenaient là. C'est tout ce que je sais.
Est-ce que vous étiez très nombreux?
On était 500. Les Américains, ils ramassaient les enfants, les Français, ils ramassaient les enfants, tout le monde, ils ramassaient les enfants. Alors tout, partout, ils amenaient là.
Mm-hmm.
Comment vous avez accepté votre changement de l'arménien au turc?
Ah oui, comment? C'est moi, elle l'a ressenti.
Ouais.
Quand tu arrivais quand la famille turque t'a prise, tu savais l'arménien?
Ah ben oui, je parle.
Bon, et tu as dû parler turc. Tu as dû oublier l'arménien.
Mais.
Quelle impression ça te faisait d'avoir oublié l'arménien?
Oh, rien, j'étais gosse alors, je ne savais pas. Je sais pas.
Par contre, je lui demandais quelque chose. Tu sais, quand tu as découvert qu'il y avait Alfortville et que tu avais de la famille.
Après, j'étais déjà à mon deuxième mariage.
Alors, j'aimerais bien que tu racontes comment tu es arrivée à Alfortville. Ça va donner une réponse.
Et il y avait deux enfants, j'avais deux enfants. J'avais mon fils avec mon deuxième mari, et puis j'avais aussi ma fille. Et ils allaient à l'école. Mon fils était comme ça, et ma fille, elle était comment ?
Non, plus grande.
Comme ça, oui, voilà. Alors, je vois sur le journal, François, était marqué, il y a une colonie arménienne à Fortville, ils ont leur pizzerie, ils ont leur boucherie, ils ont leur pharmacien, ils ont leur, enfin...
Ils ont tout, quoi.
Alors, je dis à mes enfants, je dis, écoute, il y a des Arméniens, on aurait dit que c'était des bêtes sauvages, tu sais. Il y a des Arméniens, on va les voir à Fortville un jour. Et puis, mon mari était parti en déplacement, et moi, j'habitais place de la République, à Paris. Et j'ai pris mes deux enfants, on a pris le train, on est arrivé, on est descendu à la gare ici. Et moi, je ne sais pas quel côté se trouvent les Arméniennes. On a marché, on a marché, on a marché, nous avons marché, nous avons marché, jusqu'à la Seine. À la Seine, on était directement venu à Saint-Georges. On chante des Arméniennes. Et c'est pas marqué là, je ne sais pas moi. Alors, bon, on n'a pas trouvé. On a fait, c'était à peu près, tu vois, il faisait nuit de bonheur, hein. Seulement c'était à Nouchabour qui était là, à Zadigny, à Monacne, à Zadigny, à Mbatchar.
Zadigny, à Nouchabour, à Zanontina Marihara.
Zanontina Marihara.
C'était vers le Noël arménien à peu près.
Alors, il m'a dit qu'il était là, il 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 était là. Il était là, 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 il était là,
Parce que ça.
Oui, bon. Arginé, Bardise, tu veux cacher, Borazak, c'est pas matériel écologique, pompa maga, Azak, tu veux cacher. Alors, et ça, moi, je dis à mes enfants, on y reste une arménienne. Alors, mes enfants, ils disent, c'est vrai. Et oui. La dame, elle tourne et puis elle me dit, vous êtes arménienne? Hayek, duk, hayek. Il dit, ayo, egek, egek, egek. Alors on est entré chez elle. Il avait fait un Nouchabour. Il y avait des petits plats. Il avait mis partout sur la table. Il nous a donné chacune une. Nous avons mangé. Et puis mon fils me dit, maman, demande encore une parce qu'il y a trop beau leur soupe arménienne. Il n'avait jamais mangé un Nouchabour. Alors donc, je dis non, non, non. En motel. On est parti à la maison. Et puis un an après, on se décidait encore de venir chercher des Arméniennes. Donc la dame, elle nous expliquait comment qu'il fallait que je fasse. Si je descends à la gare, il fallait que je prenne telle rue, tout ça, que j'arrive place Carlo, et que les bouchers étaient de ma famille, les bouchers d'Arfortville.
Chez Beaufort, vous connaissez?
C'est ma famille, c'est les cousins.
Elle découvre qu'elle a des cousins, qu'elle a de la famille.
Alors on est arrivé là, et puis j'entends parler en arménien, par la fenêtre. J'ai dit... Is hayin. Alors, vergeyek. Çengiler. Hosin, hos, hos, hos. Mais on est entré là-dedans. Et les garçons, ils grandissent. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Moi, je ne connais pas. Je connaissais la famille, peut-être. Je ne me rappelle même pas. Mais enfin, j'ai vu là. Alors, on me dit, ça, qui c'est ça? Je ne connais pas. Arsik, Gotsutsuni, Çengiler. Oui, c'est que c'est une maille à ma gare. C'est Ashche, Ashche. Herna Kuriga Skar. C'est une canadienne qui herna Kuriga à son chindune, purine d'une, si. Quand c'est une gamme qui est sénat, il y a une idée de
ça. Tchansa.
Tchansa. Alors voilà comment ça s'est arrivé ici.
Et c'était en quelle année ça?
Après la guerre tout de suite.
Vous vous rendez compte? Depuis 1946. 30 ans après, elle a retrouvé de la famille.
Et puis voilà, j'ai acheté une petite baraque là, je suis en face. Je vous vois arriver, toutes. Des fois, je l'attrape, parce qu'à côté, il y a un prunier, tout le monde dit, il saute dessus. Et la dame, il vient me faire des disputes avec moi.
Bien, est-ce que vous avez d'autres, maintenant que vous avez entendu la suite de sa fille, est-ce que vous avez d'autres questions à poser qui concerne soit le passé, soit l'avenir d'ailleurs.
L'avenir, qu'est-ce qui
Ah, bah, écoute, quand on a vécu tout ce que tu as vécu, on a le droit de penser un petit peu à ce qui peut se passer maintenant, oui.
Alors, comment vous avez fait pour réapprendre l'arménien?
Arménienne,
j'ai appris. Comment tu as fait pour apprendre l'arménien?
Parce que j'étais arménienne d'abord, premièrement. En étant petite, c'était facile à apprendre. J'ai vécu chez les arméniennes, enfin, tout autour. Dans cette rue-là, tout le monde est arménien.
Donc c'est en parlant un peu avec
toi? En parlant avec tout le monde, oui.
Comment as-tu fait pour devenir conseillère municipale?
Comment tu as fait pour devenir...
Voltaire, pour demander un tas de choses, pour demander, enfin, n'importe quoi, c'était moi que j'allais. Donc, je connaissais le maire, le premier,
Monsieur Franceschi.
Mais je connaissais celle d'avant aussi.
Je ne sais pas comment il s'appelle.
Celle d'avant, Franceschi aussi. Martin Franceschi. Et quand j'allais, il avait des portes ouvertes pour moi, tout ce que je voulais, je l'avais. Tout. Et alors, il m'a mis conseiller municipal parce que j'étais arménienne, parce qu'il y avait beaucoup d'arméniennes ici, parce que je parlais le français, parce que, voilà, c'est comme ça que je suis restée. Et pour lui, j'étais son porte-bonheur. Et à chaque fois, il y avait des élections, il fallait que je sois là, et que, parce qu'à chaque fois, il a gagné. Mm-hmm. Alors, il dit, comme une fois, je voulais partir, puisque moi, j'avais du travail, hein, je faisais la conviction, j'étais entrepreneuse, j'avais une quinzaine d'ouvrières. Alors, j'avais pas le temps de faire quoi que ce soit, mais j'allais quand même. Et puis, lui, il tenait beaucoup à moi. Et puis, voilà, ça s'est passé comme ça. Pendant tous ces... On est entrés à la mairie ensemble jusqu'il est mort. J'étais avec lui. Et un an, je fais avec René Rouquet. Avec René Rouquet, je lui ai dit que je ne voyais plus, que j'attendais plus, que c'était pour moi. Il fallait m'habiller, il fallait réunir le soir. C'était beaucoup de travail pour moi. Alors, je l'ai laissé, mais malgré ça, celui-là aussi, il ne m'oublie pas. Il vient me dire bonjour, toujours, à chaque fois il y a quelque chose, il m'invite. Je suis bien considérée à la mairie, hein, merci.
Oui, ça c'est parce que aussi tu as beaucoup travaillé. Voilà. Elle a reçu la médaille de la ville d'Alfortville.
Ah oui, deux fois. J'en ai reçu une de Franceschi et une autre médaille d'or, René Rouquet.
De la ville.
De la ville.
Elle a été consacrée, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans?
Je m'occupais beaucoup des Arméniens, vous savez, des appartements. Je faisais des appartements quand ils arrivaient d'Arménie, quand ils arrivaient à droite et à gauche. Je travaillais. Et puis Gaboutrache aussi, il donnait du travail aussi à faire. Hein.
Elle sait, Madame Gaboutrache, tu es guidée.
Ah bon?
Bien, pour cette partie...
Je suis restée quand même, enfin, depuis que je suis entrée à Alfortville, jusqu'à présent, je suis Gaboutrache. Mais c'est pas Gaboutrache de autrefois, du grand ta mère. Hein.
pour revenir à la partie donc de notre cours qui va être sur le génocide maintenant, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Parce qu'il faut en profiter. On a réussi à l'avoir aujourd'hui.
Oh, je viendrai encore, c'est bien mignon. Regarde comme ils sont gentils. Hein.
Ah oui, non, mais ils sont très sages. Enfin, aujourd'hui, ils sont très, très sages. Non, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Parce que sinon. On va lui demander de conclure. Mais
ils ont tout compris. Ils ont tout...
Ah oui,
ils sont grands, regarde. Ah oui. Est-ce que ça?
Non, Jeannette, ce qu'on va te demander, parce que nous, après, on va en parler, c'est maintenant que l'Arménie, plus tard, dans l'avenir, pour ses enfants qui sont de France, qu'est-ce que tu leur souhaites?
Pour le moment, comme il est en Arménie, je ne souhaite pas qu'il aille là-bas.
Tel que c'est actuellement.
Tel que c'est absolument. Il faut que ce soit vraiment...
Et pour eux, pour leur vie à eux, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire pour leur vie? Pas en tant qu'Arménien, en tant que
qu'est-ce que, je peux
que jeune. Qu'est-ce que
les
tu veux qu'ils fassent?
Les enfants d'aujourd'hui, ils se marient avec celle qu'ils aiment, et puis ils restent avec son mari. C'est un Français, un Français, c'est un Arménien, une Arménienne. Si par la suite ils veulent aller en Arménie, mais une condition que pas maintenant. Parce que maintenant, ils n'ont rien à manger, rien à boire, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien du tout. Alors, vous savez, c'est pas... C'est malheureux. Malheureusement, on ne peut rien faire.
Mais qu'est-ce que tu leur conseilles? Comment tu leur conseilles d'être quand ils seront plus grands? Pas vis-à-vis de l'Arménie. Pour eux.
Pour eux? Ben plus tard, ils vont être grands. Ils vont être une jeune fille, un jeune homme. Ils vont se marier, sûrement.
C'est ça. Le plus important, c'est ça.
Mais une condition qu'ils soient harmar.
Ah ben voilà.
Ben, voilà. Hayarchigarek. Haydrarek. Marchikanos, mais Himana Porfazi. Aluka Porfazi, Nima.
Mais c'est sûr. Bon, est-ce que vous voulez profiter de sa présence pour lui demander autre chose? Sinon, on va faire une belle photo de famille, tous ensemble.
Ah bon? Allez, alors, lève-toi.
Tu avais quelque chose à dire? Oui, vas-y. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Quand on a commencé, j'ai dit que tu étais la mamie de cette, la MCA, et que si elle existait, c'était grâce à toi. Alors rapidement, tu peux dire pourquoi j'ai dit ça?
Bon, la grand-mère qui avait ce terrain était de mon pays. Et puis, il y avait une dame aussi, une autre mamie, elle est morte, elle. Ça fait un an qu'elle est morte. Et aussi, c'était éloigné de la famille. Il avait donné son terrain à elle. Pour qu'elle garde à elle, parce qu'il n'avait pas de famille, la grand-mère ici.
Renard maman.
La patronne de...
La propriétaire.
La propriétaire, il n'avait pas de la famille, sauf arrière, une grand-mère là à côté. Et puis, ils ont été chez le notaire, et chez le notaire, ils ont trouvé héritier. Ils ont trouvé un héritier qui habite juste en face de l'église, de côté de la mairie. Il y a une église à côté de la mairie. En face, on appelle Diginzunut, mais il a une fille inadaptée. Il est dans une maison...
spécialisée.
Oui. Et elle, il fallait qu'elle touche, à ce moment-là, quand on a le terrain, quand on a commencé, c'était 400 francs le mètre carré. 400 et quelque chose. Alors, il fallait donner 1,5 million à elle. Le terrain, il n'avait pas fait sur elle, cette dame. Il fallait aussi faire ça. Il fallait payer le notaire. Alors, là-bas, en face à la grand-mère, il a pensé que c'était trop de frais, qu'il ne restait rien pour elle. Et puis, la grand-mère qui était dedans, qu'il fallait qu'elle soigne jusqu'à sa mort. Vous comprenez? Alors, il n'a pas eu le courage de...
D'accepter.
Donc... un jour, on avait une réunion de Gabotrach, et Gabotrach, ils ont dit, ben, écoutez, nous, pour faire une réunion, il faut absolument un terrain, quelque chose qu'on bâtisse, qu'on a une... Parce qu'avant, il n'y avait pas des salles de sport, il n'y avait pas tout ça, hein. Et il faudrait qu'on ait quelque part deux pièces, ou un pour nous, ou une salle. Et puis, la grand-mère, la dame en face, elle me dit, Jeannette, écoute, moi je te donne les papiers, et puis tu vas aller trouver le maire. S'il est d'accord qu'on fasse ça pour les Arméniennes, je donne. Et moi je dépense chez le notaire 2000 francs, j'ai fait cadeau. J'ai pris les papiers, je suis allée à la mairie. J'ai trouvé monsieur le maire, alors je dis, voilà, nous avons une grand-mère. Moi je prends sur mon charge pour le garder. Pas la nourriture. C'était la grand-mère, parce qu'elle avait des petits-enfants, tout ça, donc elle faisait la cuisine beaucoup. Et moi, j'étais toute seule, j'avais mon commerce, je ne pouvais pas faire la cuisine. Mais toutes ces commissions, toutes ces machines dehors, la cantine, le docteur, le pharmacien, tout ça, c'est moi qui m'occupais à cette dame-là. Et puis, M. Franceschi, il a fait nécessaire. Il a appelé tout de suite le notaire est venu chez moi. Et puis il nous a expliqué, il a donné tous les détails, comment qu'il fallait le faire et qu'est-ce qu'il fallait le faire. Et on a travaillé. Et tout de suite après, il y avait Madame Chagnan, la maman, la mère d'Armand. Parce que c'est sa belle-fille qui l'a fait le dessin d'une pièce. Il les fallait plans. Tout de suite, parce que la grand-mère, il était dans une pièce, il y avait le toit qui tombait sur elle. Et par terre était terre. Il n'y avait pas de plancher, il n'y avait rien du tout. Et il n'y avait pas de toilette. Elle faisait dans un seau et elle allait vider au bout du jardin. Elle était malheureuse comme tout, alors il fallait qu'on s'occupe d'elle. Et donc, le notaire, il a dit, vous pouvez faire une maison arménienne en attendant. Une petite maison qui est derrière, là. Derrière,
la bibliothèque est derrière, là-bas.
Là. On a fait ça devant, était là devant. On a mis là. Et Gabotrach, il avait 3000 francs dans la caisse. 3000 francs, pas plus. Nous sommes sortis avec Madame Michagnan et la mère, il est morte la semaine dernière.
Andrassian.
On est sortis ensemble. Et Puis nous avons ramassé l'argent, on était chez les riches. Donc on était chez docteur Mondjian, chez docteur Dan, des gens qui font la confection, tout ça. Et tout le monde, il a donné sans exception. Jamais personne n'a refusé. Ils ont donné. On a ramassé en 15 jours 2 600 000. On a ramassé, nous avons ramassé. Partout on a été. Avec ça, on a payé le notaire. La maison, ça nous a coûté. La petite maison là, il y avait. Avant, c'était une pièce seulement. Et la pièce était donc 1 million. Et puis on a pensé qu'il fallait une toilette, il fallait aussi une cuisine. Alors on a fait, on a rejeté encore, et puis on a mis une cuisine et puis une toilette. Et ça nous a coûté 2 millions 100, à peu près. Parce qu'il fallait encore 2 portes, il fallait 2 fenêtres, aussi bien la toilette que la cuisine. Et 2 portes, et ça nous a coûté double. Voilà. Et on a logé la dame, on a acheté un divan, nous avons acheté une chauffe-eau, on a acheté une butane pour se chauffer, on a mis l'inon par terre. Ah, il y avait aussi monsieur Papazian.
Krikor Papazian.
On était chercher, nous avons été chercher avec madame Nishanyan pour qu'elle vienne nous aider parce qu'il nous fallait un homme pour couper les arbres dans le jardin, pour faire les travaux. Non, les femmes, on ne pouvait pas le faire. Nous avons été chercher, il est venu avec plaisir. Lui, il a coupé les arbres, il a nettoyé le jardin, nous avons tout fait. Ils ont bâti la maison, on a mis la grand-mère dedans. Et puis, 2 ans après, nous avons quitté nos Tiketsikmenk. Voilà. Et puis après, les celles qui sont arrivées, ils ont fait la maison. Nous, on a commencé, on a mis...
La première pierre.
La première pierre. Alors.
Voilà.
Parce que 8 ans après, la grand-mère, il a vécu pendant 8 ans. Il fallait que je m'en occupe. Hein. Quand il pleuvait comme ça, elle prenait une cache-corde sur sa tête, et puis il prenait le vase de nuit. Le vase de nuit, elle mettait en dessous. Elle venait chez moi pour coucher.
Après tout ce qu'elle a vécu, elle a encore été capable de faire ce genre de choses.
Et voilà, on a fait la maison.
Voilà, alors si tu veux bien, on va faire une belle photo maintenant. Alors on va s'arrêter 2 secondes.
Écoute-moi, je ne me mets pas dans les photos, je suis laide comme tout. Qu'est-ce que tu
veux? Oh! Vous êtes d'accord, vous trouvez? Non. Puis on va se mettre là.